Maurice Vian.
Je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans en lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure. C'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher.
Ça peut pas faire de mal.
Et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable, je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique, et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en approcha pour vérifier l'état de son épiderme. Puis il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait. Le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Cantine. Il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le teint doré. Il souriait souvent d'un sourire de bébé et, à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur et le reste du temps, il dormait. C'était les premières lignes d'un des romans cultes du XXe siècle, une histoire d'amour poétique, L'écume des jours de Boris Vian, paru en 1947. Son auteur, qui rédige le livre en moins de 2 mois, à l'âge de 27 ans, veut s'éloigner des modes littéraires de son époque, comme l'autobiographie ou le roman politique. Ce qui l'intéresse ici n'est pas le réalisme, mais au contraire l'invention, l'étrange, l'incroyable, et plus que tout, l'humour. Dans cette histoire dont Boris Vian assurait qu'elle était, je cite, « entièrement vraie puisqu'imaginée d'un bout à l'autre », les individus parlent aux souris, les vitres des voitures changent de couleur, les nénuphars empêchent de respirer et l'amour naît en un battement de cils. Les 6 personnages du roman vont d'ailleurs faire l'expérience de ce sentiment si particulier. Colin va rencontrer Chloé, Chic va s'amouracher d'Alise et Nicolas tombera sous le charme d'Isis. Découvrons ce soir leurs histoires, portées tout au long du roman par les mélodies entraînantes du jazz américain. Commençons par les interrogations de Colin, le personnage principal, sur l'amour. Nous sommes au chapitre 10. Colin a 22 ans, il est célibataire et c'est une situation qu'il supporte de moins en moins. Son meilleur ami, Chic, vient de rencontrer une certaine Alise lors d'une conférence donnée par son écrivain préféré, Jean Solpartre. Le récit de son camarade le passionne et Colin se met alors à rêver à une éventuelle rencontre qui pourrait peut-être changer sa vie. Le voilà encore dans sa salle de bain. Il se prépare avant de se rendre chez Isis Pontozane, qui donne ce soir une fête chez elle. « Je voudrais être amoureux, » dit Colin. « Tu voudrais être amoureux ? Il voudrait idem être amoureux. Nous, vous, voudriez être, il voudrait également tomber amoureux. » Il noue sa cravate devant le miroir de la salle de bain. « Il me reste à mettre ma veste et mon manteau, et mon foulard, et mon gant droit et mon gant gauche. » Et pas de chapeau pour ne pas décoiffer. Qu'est-ce que tu fais là ? Il interpellait la souris grise à moustache noire qui certainement n'était pas à sa place dans le verre à dents, même accoudée au bord du divan et prenant un air détaché. Suppose, dit-il à la souris, en s'asseyant sur le rebord de la baignoire rectangulaire d'émail jaune pour se rapprocher d'elle, que je trouve chez la Pontozane mon vieil ami Chose. La souris acquiesça. Suppose, pourquoi pas, qu'il y ait une cousine. Elle serait vêtue d'un sweatshirt blanc, d'une jupe jaune, elle s'appellerait Onésime. La souris se croisa les pattes et parut surprise. « Ce n'est pas un joli nom, dit Colin, mais toi tu es une souris et tu as bien de la moustache, alors... » Il se releva. « Il est 3 heures, tu vois, tu me fais perdre mon temps. Chick, il sera certainement très tôt. » Il suça son doigt et l'éleva au-dessus de sa tête. Il le redescendit presque aussitôt. Ça le brûlait comme dans un four. « Il y aura de l'amour dans l'air, conclut-il. Ça chauffe. Je me lève, tu te, il se lève, nous, vous, ils, levons, lever, lève. Tu veux sortir du verre ?» La souris prouva qu'elle n'avait besoin de personne en sortant toute seule et en se taignant un morceau de savon en forme de sucette. « N'en colle pas partout, dit Colin. Parce que tu es gourmande. » Il sortit, passa dans sa chambre et mit sa veste. « La doublure de ma manche gauche est un petit peu déchirée. Je n'ai plus de Chatterton. Tant pis, je vais mettre un clou. » La porte claqua derrière lui avec un bruit d'une main nue sur une fesse nue. Ça le fit tressaillir. « Je veux penser à autre chose. Supposons que je me casse la gueule dans l'escalier. » Le tapis de l'escalier, mauve, très clair, n'était usé que toutes les 3 marches. Colin descendait en effet toujours 4 à 4. Il se prit les pieds dans une tringle nickelée et se mélangea à la rampe. « Ça m'apprendra à dire des conneries. C'est bien fait. Je, tu, suis, est-il bête ?» La porte extérieure se referma sur lui avec un bruit de baiser sur une épaule nue. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette rue ? Il y avait 2 terrassiers qui jouaient à la marelle. Le ventre du plus gros sautait à contre-temps de son propriétaire. À droite, à gauche, s'élevaient de belles constructions de torchis avec des fenêtres guillotines. Une femme se penchait à une fenêtre. Colin lui envoya un baiser. Des magasins égayaient l'aspect cruel des grands immeubles. Le froid retenait les gens chez eux. Ceux qui réussissaient à s'arracher à sa prise y laissaient des lambeaux de vêtements et mouraient d'angine. 2 amoureux s'embrassaient sous un porche. « Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir. Ils m'embêtent. » Colin traversa la rue. 2 autres amoureux s'embrassaient sous un porche. Il ferma les yeux et se mit à courir. Il les rouvrit très vite car il voyait sous ses paupières des tas de filles et ça lui faisait perdre son chemin. Il y en avait une devant lui. Elle allait dans la même direction. On voyait ses jolies jambes dans des bottillons de mouton blanc, son manteau de peau de pandour décati et sa toque assortie. « Je veux la dépasser. Je veux voir sa figure. » Il la dépassa et se mit à pleurer. Elle comptait au moins 59 ans. Il s'assit au bord du trottoir et pleura encore. Ça le soulageait beaucoup et les larmes gelaient avec un petit crépitement et se cassaient sur le granit lisse du trottoir. Il s'aperçut au bout de 5 minutes qu'il se trouvait devant la maison d'Isis Pontozane. 2 jeunes filles passèrent près de lui et pénétrèrent dans le vestibule de l'immeuble. Son cœur s'enfla démesurément, s'allégea, le souleva de terre et il entra à leur suite. Et comme par miracle, le vœu de Colin est exaucé. Lors de cette fameuse fête chez Isis, il rencontre une jeune fille qui porte le même nom qu'un morceau de jazz qu'il apprécie particulièrement, Chloé, du compositeur américain Duke Ellington. Colin est transporté par la beauté de Chloé. Elle a les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux. Et Colin ne désire qu'une chose, la revoir. Voici un extrait du chapitre 12. Colin a invité Chick à déjeuner chez lui. Nicolas, le cuisinier, leur a préparé un repas. Est-ce que tu la reverras ? Demanda Chick. Ils étaient attablés devant la dernière création de Nicolas, le cuisinier de Colin, une courge aux noix. Je ne sais pas, dit Colin. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, c'est une fille très bien élevée. Ne fais pas cette tête-là, dit Chick. Songe que j'ai trouvé aujourd'hui une édition du choix préalable avant le haut-le-cœur de Partre, sur rouleau hygiénique non dentelé. Mais où prends-tu tout cet argent ? Dit Colin. Chick s'assombrit. Ça me coûte très cher, mais je ne peux pas m'en passer, dit-il. J'ai besoin de Partre. Je suis collectionneur, il me faut tout ce qu'il a fait. Mais il n'arrête pas d'en faire, dit Colin, il publie au moins 5 articles par semaine. Je sais bien, dit Chick. Comment est-ce que je pourrais revoir Chloé, dit-il. Chick le regarda et sourit. C'est vrai, dit-il. Je te bassine avec mes histoires de Jean-Seul Partre. Je veux bien t'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est terrible, dit Colin, je suis à la fois désespéré et horriblement heureux. C'est très agréable d'avoir envie de quelque chose à ce point. Je voudrais, continua-t-il, être couché dans de l'herbe un peu rôtie, avec la terre sèche et du soleil, tu sais, de l'herbe jaune comme de la paille, et cassante, avec des tas de petites bêtes et de la mousse très sèche aussi. On se met à plat ventre et on regarde. Il faut une haie avec des pierres et des arbres tout tordus et des petites feuilles. Ça fait un bien considérable. Et Chloé, dit Chic. Et Chloé, naturellement, dit Colin. Chloé, dans l'idée, ils se turent quelques instants. Reprends un peu de sauterne, dit Colin. Une fois n'est pas coutume, je crois qu'on peut finir la bouteille. Et si on coupait le gâteau, dit Chic. Colin saisit un couteau d'argent et se mit à tracer une spirale sur la blancheur polie du gâteau. Il s'arrêta soudain et regarda son œuvre avec surprise. Je vais essayer quelque chose, dit-il. Il prit une feuille de houx au bouquet de la table et saisit le gâteau d'une main. Le faisant tourner rapidement sur le bout du doigt, il plaça de l'autre main une des pointes du houx dans la spirale. Écoute, dit-il. Chic écouta. C'était Chloé dans l'arrangement de Duke Ellington. Chic regarda Colin. Il était tout pâle. Je n'ose pas le couper, dit Colin. Chic lui prit le couteau des mains et le planta d'un geste ferme dans le gâteau. Il le fendit en deux. Et dans le gâteau, il y avait un nouvel article de Partre pour Chic et un rendez-vous avec Chloé pour Colin. Boris Vian.
Je ne sais pas si je bouscule exactement la logique. Je crois que cet effet vient de ce que la logique, pour moi, n'est pas la logique aristotélicienne, si vous voulez. Enfin, jamais je n'ai pu me contenter de la logique du blanc ou du noir ou de la logique à deux valeurs. C'est absolument insuffisant. Si une chose n'est pas blanche, elle peut être noire, évidemment, mais elle peut être également d'un tas de couleurs très différentes.
Viens ce soir, seul dans ma chambre. Viens, mon âme, viens t'étendre près de moi.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Suite à ce qu'il vient de trouver dans le gâteau, Colin se prépare donc à son premier rendez-vous avec Chloé. Le voici dans la rue en compagnie de celle qu'il désire. Ils viennent juste de se promener et ont décidé de s'asseoir sur un banc. Nous sommes au chapitre 14, au moment où Boris Vian fait basculer ses deux héros dans le sentiment amoureux. Le banc paraissait un peu humide et vert foncé. Malgré tout, cette allée n'était pas très fréquentée et il n'était pas mal. « Vous n'avez pas froid ?» demanda Colin. « Non, avec ce nuage, » dit Chloé, « mais je veux bien me rapprocher de vous tout de même. »« Oh !» dit Colin, et il rougit. Ça lui fit une drôle de sensation. Il mit son bras autour de la taille de Chloé. Sa toque était inclinée de l'autre côté et il avait tout près des lèvres un flot de cheveux lustrés. « J'aime être avec vous, » dit-il. Chloé ne dit rien. Elle respira un peu plus vite et se rapprocha imperceptiblement. Colin lui parlait presque à l'oreille. « Vous ne vous ennuyez pas ?» demanda-t-il. Elle fit non de la tête et Colin put se rapprocher encore à la faveur du mouvement. « Je... » dit-il tout contre son oreille. Et à ce moment, comme par erreur, elle tourna la tête et Colin lui embrassait les lèvres. Ça ne dura pas très longtemps, mais la fois d'après, c'était beaucoup mieux. Alors il fourra sa figure dans les cheveux de Chloé et il restait là sans rien dire. Dans ce roman, les sentiments des personnages sont exacerbés. Il n'y a jamais de demi-mesure. Le bonheur est absolu et le malheur destructeur. Le chapitre 16 porte encore haut et fort l'insouciance de Colin, amoureux fou de Chloé, qu'il a décidé d'épouser le plus vite possible. Enthousiaste et rêveur, il s'attelle aux derniers préparatifs de la cérémonie. Colin courait dans la rue. Ce sera une belle noce. C'est demain, demain matin. Tous mes amis seront là. La rue menait à Chloé. Chloé, vos lèvres sont douces. Vous avez un teint de fruit. Vos yeux voient comme il faut voir et votre corps me fait chaud. Des billes de verre roulaient dans la rue et des enfants venaient derrière. Il me faudra des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre cou. Il y eut trois petites filles. Elles chantaient une ronde, toute ronde, et la dansaient en triangle. « Chloé, je voudrais sentir vos seins nus sur ma poitrine, mes deux mains croisées sur vous, vos bras autour de mon cou, votre tête parfumée dans le creux de mon épaule, et votre peau palpitante et l'odeur qui vient de vous. Le ciel était clair et bleu, le froid vif encore, mais moins. Les arbres tout noirs montraient au bout de leurs bois ternis des bourgeons verts et gonflés. Quand vous êtes loin de moi, je vous vois dans cette robe avec des boutons d'argent, mais la portiez-vous donc ? Non, pas la première fois. C'était le jour du premier rendez-vous, sous votre manteau lourd et doux, vous l'aviez contre votre corps. » Il poussa la porte de la boutique et entra. « Je voudrais des masses de fleurs pour Chloé, » dit-il. « Quand doit-on les lui porter ?» demanda la fleuriste. Elle était jeune et frêle et ses mains étaient rouges. Elle aimait beaucoup les fleurs. « Portez-les demain matin et portez-en chez moi, qu'il y en ait plein notre chambre, des lys, des glaïeuls blancs, des roses et des tas d'autres fleurs blanches et mettez aussi surtout un gros bouquet de roses rouges. » Après leur mariage, Colin et Chloé décident de partir en voyage. Les voici installés dans une voiture conduite par Nicolas. Autour d'eux, le paysage se fait de plus en plus sombre. Ils abordent une route qu'ils ne connaissent pas et au cours de laquelle ils vont croiser des travailleurs. Il faut savoir que ni Colin ni Chloé ne travaillent. Ils vivent de leurs économies. Deux mondes vont donc se confronter dans cet extrait, celui coloré du jeune couple et celui plus sale de ceux qui doivent gagner leur vie. Nous sommes au chapitre 24 et 25, plongé au cœur d'un conte philosophique. La grande voiture blanche se frayait précautionneusement un chemin dans les ornières de la route. Colin et Chloé, assis derrière, regardaient le paysage avec un certain malaise. Le ciel était bas, des oiseaux rouges volaient au ras des fils télégraphiques et leurs cris aigres se reflétaient sur l'eau plombée des flaques. « Pourquoi est-on passé par là ?» demanda Chloé. « C'est un raccourci, » dit Colin. « C'est obligatoire. La route ordinaire est usée. » Tout le monde a voulu y rouler parce qu'il y faisait beau tout le temps et maintenant il ne reste que celle-ci. Ne t'inquiète pas, Nicolas sait conduire. « C'est cette lumière, » dit Chloé. Son cœur battait vite comme serré dans une coque trop dure. Colin passa son bras autour des épaules de Chloé et prit le cou gracieux entre ses doigts, sous les cheveux, comme on prend un petit chat. « Veux-tu que je mette les glaces jaunes ?» dit Colin. Colin pressa des boutons verts, bleus, jaunes, rouges et les glaces correspondantes remplacèrent celles de la voiture. On se serait cru dans un arc-en-ciel. Chloé se sentit mieux. Puis elle se tourna vers la glace à sa droite et frissonna. Une bête écailleuse les regardait passer, debout, près d'un poteau télégraphique. « C'est un des hommes qui entretiennent les lignes, » dit Nicolas. « Ils sont habillés comme ça pour que la boue n'entre pas jusqu'à eux. »« N'aie pas peur, ma Chloé. C'était juste un homme. » Sous les roues, le sol paraissait plus ferme. Une vague lueur teintait l'horizon. « Regarde, dit Colin, c'est le soleil. » Nicolas secoua négativement la tête. « Non, ce sont les mines de cuivre, » dit-il. « On va les traverser. Il va faire chaud. » La boue, maintenant, commençait à fumer. La voiture était environnée de vapeurs blanches. Loin devant, l'air vibrait comme au-dessus d'un grand four. « Je n'aime pas ça, » dit Chloé. « On ne peut pas passer d'un autre côté. Il n'y a que ce chemin, » dit Colin. Brusquement, la route tourna de nouveau et ils se trouvaient au milieu des mines de cuivre. Elles s'étageaient des deux côtés, de quelques mètres en contrebas. D'immenses étendues de cuivre verdâtre à l'infini déroulaient leur aridité. Des centaines d'hommes s'agitaient autour des feux. « Quel travail terrible !» dit Chloé. « C'est assez bien payé, » dit Nicolas. Quelques hommes s'étaient arrêtés pour voir passer la voiture. On ne voyait dans leurs yeux qu'une pitié peu narquoise. Ils étaient larges et forts, ils avaient l'air inaltérables. « Ils ne nous aiment pas, » dit Chloé. « Allons-nous-en d'ici. »« Ils travaillent, » dit Colin. « Ce n'est pas une raison, » dit Chloé. Nicolas accéléra un peu, la voiture filait sur la croûte, craquelée. « Pourquoi sont-ils si méprisants ?» demanda Chloé. « Ce n'est pas tellement bien de travailler. »« On leur a dit que c'est bien, » dit Colin. « En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On le fait par habitude et pour ne pas y penser, justement. »« En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. »« Il faut construire les machines, » dit Colin. « Qui le fera ?»« Oh, évidemment, » dit Chloé, « pour faire un œuf, il faut une poule. Mais une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'œufs. Il vaut donc mieux commencer par la poule. » « Il faudrait savoir, dit Colin, qui empêche de faire des machines. C'est le temps qui doit manquer. Les gens perdent leur temps à vivre, alors il ne leur en reste plus pour travailler. »« Ce n'est pas plutôt le contraire, dit Chloé. »« Non, dit Colin. S'ils avaient le temps de construire les machines, après ils n'auraient plus besoin de rien faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent pour vivre au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. »« C'est compliqué, estima Chloé. »« Non, dit Colin, c'est très simple. » Ça devrait bien entendu venir progressivement, mais on perd tellement de temps à faire des choses qui s'usent. Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leur femme et aller à la piscine et au divertissement ? Non, dit Colin, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais est-ce que c'est leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler ? Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit, le travail c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement on s'arrange pour les faire travailler tout le temps et alors ils ne peuvent pas en profiter. « Parlons d'autre chose, » dit Chloé. « C'est épuisant, ces sujets-là. Dis-moi que tu aimes mes cheveux. Je t'ai déjà dit. » Il l'a pris sur ses genoux. De nouveau, il se sentait complètement heureux. « Je t'ai déjà dit que je t'aimais, en gros et en détail. » « Alors détail, » murmura Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, câline comme une couleuvre.
La vérité n'est pas du côté du plus grand nombre, effectivement, parce qu'on ne veut pas qu'elle y soit.
Boris Vian.
Le jour où le plus grand nombre sera à même, par sa culture, de choisir lui-même sa vérité, il y a peu de chances pour qu'il se trompe. Si on veut faire quelque chose de différent, ce qui est au fond le problème du créateur, ce n'est pas de faire, c'est de faire autrement. Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite. Et je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour... la rechercher. Le créateur doit créer ce qui lui plaît au moment où il le crée. Il est parfait. Moi, je conçois parfaitement un homme qui écrive des pièces pour le Palais Royal et qui, en même temps, écrive des pièces pour l'Athénée. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de cloison.
Quelques jours plus tard, Chloé tombe gravement malade. Lorsque Colin l'apprend, il n'est pas chez lui. Il se dépêche donc de rentrer, s'imaginant mille choses sur le chemin. Extrait du chapitre 32 et 33. Il courait de toutes ses forces et les gens devant ses yeux s'inclinaient lentement pour tomber comme des quilles, allongés sur le pavé avec un clapotement mou comme un grand carton qu'on lâche à plat. Et Colin courait, courait, l'angle aigu de l'horizon serré entre les maisons se précipitait vers lui. Sous ses pas, il faisait nuit, une nuit d'ouate noire, amorphe et inorganique, et le ciel était sans teinte, un plafond, un angle aigu de plus. Il courait vers le sommet de la pyramide, arrêté au cœur par des sections de nuit moins noires, mais il y avait encore 3 rues avant la sienne. Chloé reposait, très claire, sur le beau lit de leurs noces. Elle avait les yeux ouverts, mais respirait mal. Alice était avec elle, Isis aidait Nicolas qui préparait un reconstituant certain, et la souris grise broyait de ses dents aiguës des graines d'herbe à décoction pour le breuvage de chevet. Mais Colin ne savait pas, il courait, il avait peur. Pourquoi ça ne suffit pas de toujours rester ensemble? Il faut encore qu'on ait peur. Peut-être est-ce un accident, une auto l'a écrasée, elle serait sur son lit, je ne pourrais pas la voir, il m'empêcherait d'entrer. Mais vous croyez donc peut-être que j'ai peur de ma Chloé, je la verrai malgré vous. Mais non, Colin n'entre pas. Elle est peut-être blessée seulement, alors il n'y aura rien du tout. Demain, nous irons ensemble au bois pour revoir le banc. J'avais sa main dans la mienne et ses cheveux près des miens, son parfum sur l'oreiller. Je prends toujours son oreiller. Nous nous battrons encore le soir. Le mien, elle le trouve trop bourré, il reste trop rond sous sa tête et moi je le reprends après. Il sent l'odeur de ses cheveux. Jamais plus je ne sentirai la douce odeur de ses cheveux. Le trottoir se dressa devant lui, il le franchit d'un bond de géant. Il était au premier étage, il monta, il ouvrit la porte et tout était calme et tranquille. Pas de gens noirs, pas de religieux, la paix des tapis aux dessins gris-bleu. Nicolas lui dit « Ce n'est pas grand-chose ». Et Chloé sourit, elle était heureuse de le revoir. La main de Chloé, tiède et confiante, était dans la main de Colin. Elle le regardait. Ses yeux clairs, un peu étonnés, le tenaient en repos. En bas de la plateforme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s'amassaient, acharnés à s'étouffer les uns les autres. Chloé sentait une force opaque dans son corps, dans son thorax. Elle ne savait comment lutter. Sa poitrine se soulevait à peine. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée au chevet du lit. « Mets-moi de la musique, mon Colin, » dit Chloé. « Mets des airs que tu aimes. » Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l'appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces et il mit en route celui de la chambre. « Qu'as-tu mis ?» demanda Chloé. Elle souriait. Elle savait bien. « Tu te rappelles ?» dit Colin. « Je me rappelle. » À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Chloé se redressa un peu. « Viens t'asseoir près de moi. » Colin se rapprocha d'elle. La tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère dessinait sur la peau dorée de Chloé un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance de ses seins. Il y avait quelque chose d'éthéré dans le jeu de Johnny Hodges, quelque chose d'inexplicable et de parfaitement sensuel. La sensualité à l'état pur, dégagée du corps. Les coins de la chambre se modifiaient et s'arrondissaient sous l'effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d'une sphère. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Chloé. « C'était « The mood to be wooed », dit Colin. « C'est ce que je sentais, » dit Chloé. « Mais comment le docteur va-t-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu'elle a ?» Colin va tout faire pour sauver Chloé. Un nénuphar pousse dans son poumon droit et l'empêche de respirer. Le seul remède efficace consiste à l'entourer chaque jour de fleurs. Il en achète donc tout le temps et se voit obligé de trouver un travail car les bouquets lui coûtent trop cher. Ses amis également traversent des périodes difficiles, notamment Chick et Alice, qui se sont mariés, eux aussi, mais qui ont décidé de se séparer car Chick aime plus Jean-Sol Partre qu'Alice. Il réserve en effet toute son attention, son énergie et son argent à son auteur fétiche, délaissant sa femme qui ne sait plus quoi faire pour le raisonner. Après avoir discuté avec Colin, Alice s'en va, laissant Chick obsédé par la sortie prochaine du nouveau livre de Partre, une encyclopédie en plusieurs volumes. Mais elle a une idée en tête. Nous sommes au chapitre 56. Boris Vian s'y moque évidemment de Sartre et montre aussi jusqu'où peuvent aller les individus pour sauver les êtres qu'ils aiment. On ne doit pas laisser Partre publier cette encyclopédie, ce sera la mort de Chick. Il volera, il tuera un libraire. Alice se mit donc en route lentement. Partre passe ses journées dans un débit à boire et à écrire avec d'autres gens comme lui. Ils boivent du thé des mers et des alcools doux, cela leur évite de penser à ce qu'ils écrivent, et il entre et sort beaucoup de monde. Cela remue les idées du fond et on empêche une ou l'autre. Il ne faut pas éliminer le superflu, on met un peu d'idées, un peu de superflu et on dilue. Les gens absorbent ces choses-là plus facilement. Le chemin n'était pas très long. Alice entra. Jean-Sol Partre, à sa place habituelle, écrivait. Par un miracle ordinaire, Alice vit une chaise libre à côté de lui et s'assit. Elle posa sur ses genoux son sac pesant et défit la fermeture. Par-dessus l'épaule de Jean-Sol Partre, elle voyait le titre de la page « Encyclopédie », volume 19. Elle posa une main timide sur le bras de Jean-Sol. Il s'arrêta d'écrire. « Vous en êtes déjà là ?» dit Alice. « Oui, » répondit Jean-Sol. « Vous vouliez me parler. Je voulais vous demander de ne pas le publier, » dit-elle. « C'est difficile, » dit Jean-Sol. « On l'attend. » Il retira ses lunettes, souffla sur les verres et les remit. On ne voyait plus ses yeux. « Bien sûr, » dit Alice. « Mais je veux dire, il faudrait seulement le retarder. »« Oh, » dit Jean-Sol. « S'il n'y a que ça, on peut voir. »« Il faudrait le retarder de 10 ans, » dit Alice. « Oui, » dit Jean-Sol. « Oui, » dit Alice. « 10 ans, ou plus, naturellement. » Vous savez, il vaut mieux laisser les gens économiser pour pouvoir l'acheter. Ce sera assez embêtant à lire, dit Jean-Sol Partre, parce que ça m'embête déjà beaucoup à écrire. J'ai une forte crampe au poignet gauche à force de tenir la feuille. Je le regrette pour vous, dit Alice. Pour la crampe ? Non, dit-elle, que vous ne vouliez pas retarder la publication. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Chic dépense tout son argent à acheter ce que vous faites et il n'a plus d'argent. Il ferait mieux d'acheter autre chose, dit Jean-Sol. Moi, je n'achète jamais mes livres. Il aime ce que vous faites. C'est son droit, dit Jean-Sol. Il a fait son choix. Il est trop engagé, je trouve, dit Alice. Moi, j'ai fait mon choix aussi, mais je suis libre parce qu'il ne veut plus que je vive avec lui. Alors, je vais vous tuer parce que vous ne voulez pas retarder la publication. Vous allez me faire perdre mes moyens d'existence, dit Jean-Sol. Comment voulez-vous que je touche mes droits d'auteur si je suis mort ? Ça vous regarde, dit Alice. Je ne peux pas tout prendre en considération puisque je veux vous tuer avant tout. Mais vous admettez bien que je ne puisse pas me rendre à une raison comme celle-là, demanda Jean-Sol Partre. J'admets, dit Alice. Elle ouvrit son sac et en tira l'arrache-cœur de Chic qu'elle avait pris depuis plusieurs jours dans le tiroir de son bureau. Vous voulez défaire votre col ? Demanda-t-elle. Écoutez, dit Jean-Sol en retirant ses lunettes, je trouve cette histoire idiote. Il déboutonna son col. Alice rassembla ses forces et d'un geste résolu, elle planta l'arrache-cœur dans la poitrine de Partre. Il la regarda. Il mourait très vite. Et il eut un dernier regard étonné en constatant que son cœur avait la forme d'un tétraèdre. Alice prit ensuite le manuscrit de l'encyclopédie et le déchira. Un des garçons vint essuyer le sang. Alice paya le garçon, ouvrit les deux branches de l'arrache-cœur et le cœur de Partre resta sur la table. Elle replia l'instrument brillant et le remit dans son sac, puis elle sortit dans la rue, tenant la boîte d'allumettes que Partre gardait dans sa poche.
À tous les enfants qui sont partis, le sac au dos par un matin brumeux d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leur faux pelis, sur leurs bajoues des marques de honte et de boue.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
J'ai toujours pensé aussi qu'il était très dangereux d'écrire avant d'avoir fait beaucoup de choses. Ce qui me terrifie souvent dans la littérature actuelle, c'est de voir des gens de 17 ou 18 ans commencer par écrire leur mémoire. Je me demande quels souvenirs ils peuvent avoir sans avoir vécu du tout. Personnellement, j'ai commencé d'une part plus tard. J'ai pas commencé avant 23-24 ans. J'ai attendu d'avoir fait des choses et surtout, j'ai pas commencé par parler de ce qui m'était arrivé très précisément. Je crois qu'il vaut mieux d'abord, en même temps qu'on vit, imaginer une autre vie. Et le résultat de l'interférence des deux, si vous voulez, le résultat de l'influence du caractère sur l'existence doit finir par vous donner une matière qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui enfin représente quelqu'un finalement.
Après avoir tué Partre, Alice brûle toutes les librairies proches de chez elle afin d'empêcher Chic d'acheter des livres et qu'il continue à se ruiner. Mais elle meurt dans un des incendies qu'elle provoque. De son côté, Chic est poursuivi par la police car il n'a pas payé ses impôts. Il meurt lui aussi. Colin, Isis et Nicolas se retrouvent seuls autour de Chloé, toujours souffrante. Plus les jours passent et plus sa chambre rétrécit. Extrait du chapitre 57. On ne pouvait plus entrer dans la salle à manger, le plafond rejoignait presque le plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, mi-minérales qui se développaient dans l'obscurité humide. La porte du couloir ne s'ouvrait plus, seul subsistait un étroit passage menant de l'entrée à la chambre de Chloé. Isis passa la première, Nicolas la suivait. Il avait l'air hébété. Quelque chose gonflait la poche intérieure de son veston et de temps à autre il portait la main à sa poitrine. Isis regarda le lit avant d'entrer dans la chambre. Chloé était toujours entourée de fleurs. Ses mains allongées sur les couvertures tenaient à peine une grosse orchidée blanche qui paraissait beige à côté de sa peau diaphane. Elle avait les yeux ouverts et remua à peine en voyant Isis s'asseoir près d'elle. Nicolas, lui, détourna la tête. Il aurait voulu lui sourire. Il s'approcha d'elle et lui caressa la main. Il s'assit aussi et Chloé ferma doucement les yeux et les rouvrit. Elle paraissait contente de les voir. Les fleurs frissonnaient autour du lit. Elle ne résisterait pas longtemps et Chloé se sentait plus faible d'heure en heure. « Oui, Colin ?» demanda Isis. « Travaille. Travaille, » dit Chloé dans un souffle. « Ne parle pas, » dit Isis. Elle approcha sa jolie tête brune de celle de Chloé et l'embrassa avec précaution. On entendit un pas dans l'entrée. Colin apparut à la porte. Il tenait de nouvelles fleurs, mais il n'avait plus de travail. Il vint tout près de Chloé, il l'aimait beaucoup trop pour les forces qu'elle avait maintenant et l'effleurait à peine de peur de la briser complètement, de ses pauvres mains encore abîmées par le travail, il lissa les cheveux sombres. Il y avait Nicolas, Colin, Isis et Chloé. Nicolas se mit à pleurer car Chic et Alice ne viendraient jamais plus et Chloé allait si mal. Nous voici maintenant à la fin du roman. Chloé est morte. Colin, qui a dépensé tout son argent dans les fleurs, est ruiné. Il ne peut donc offrir à sa femme l'enterrement qu'il aurait voulu. À travers cette scène, Boris Vian condamne une fois de plus l'argent qui mène les hommes à leur perte. Extrait du chapitre 65. Les deux porteurs trouvèrent Colin qui les attendait dans l'entrée de l'appartement. Ils étaient couverts de saleté. On voyait par les trous de leurs uniformes les poils rouges de leurs vilaines jambes noueuses et ils saluèrent Colin en lui tapant sur le ventre, comme prévu au règlement des enterrements pauvres. L'entrée ressemblait maintenant à un couloir de cave. Ils baissèrent la tête pour arriver à la chambre de Chloé. Ceux du cercueil étaient partis, on ne voyait plus Chloé, mais une vilaine boîte noire marquée d'un numéro d'ordre et toute bosselée. Ils la saisirent et, s'en servant comme d'un bélier, la précipitèrent par la fenêtre. On ne descendait les morts à bras qu'à partir de 500 doublezons. C'est pour cela, pensa Colin, que la boîte a tant de bosses. et il pleura parce que Chloé devait être meurtrie et abîmée. Il songea qu'elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d'un enfant qui jouait à côté. On le repoussa contre le trottoir et ils l'haïssèrent sur la voiture à mort. C'était un vieux camion peint en rouge. Très peu de gens suivaient le camion. Nicolas, Isis et Colin, et deux ou trois qu'ils ne connaissaient pas. Le camion allait assez vite et ils durent courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu'à partir de 250 doubles onces. Devant l'église, on s'arrêta et la boîte noire resta là pendant que tous entraient pour la cérémonie. Le religieux, l'air renfrogné, leur tournait le dos et commença à s'agiter sans conviction. Colin restait debout devant l'autel. Il leva les yeux. Devant lui, accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l'air de s'ennuyer et Colin lui demanda « Pourquoi est-ce que Chloé est morte ?»« Je n'ai aucune responsabilité là-dedans, dit Jésus, si nous parlions d'autre chose. »« Qu'est-ce que cela regarde ?» demanda Colin. Ils s'entretenaient à voix basse et les autres n'entendaient pas leur conversation. « Ce n'est pas moi en tout cas, dit Jésus. »« Je vous ai invité à mon mariage, dit Colin. »« C'était réussi, dit Jésus, je me suis bien amusé. »« Pourquoi n'avez-vous pas donné plus d'argent cette fois-ci ? » ? Je n'en ai plus, dit Colin. « Et puis ce n'est pas mon mariage cette fois-ci. » Jésus paraissait gêné. « C'est très différent, dit Colin. Cette fois, Chloé est morte. Je n'aime pas l'idée de cette boîte noire. dit Jésus. Il regardait ailleurs et semblait s'ennuyer. « Pourquoi l'avez-vous fait mourir ?» demanda Colin. « Oh, dit Jésus, n'insistez pas. » Et il chercha une position plus commode sur ses clous. « Elle était si douce, dit Colin. Jamais elle n'a fait le mal, ni en pensée, ni en action. »
« Ça n'a aucun rapport avec la religion, »
marmonna Jésus en bâillant. Il secoua un peu la tête pour changer l'inclinaison de sa couronne d'épines. « Je ne vois pas ce que nous avons fait, » dit Colin. « Nous ne méritons pas cela. » Il baissa les yeux. Jésus ne répondit pas. Colin releva la tête. La poitrine de Jésus se soulevait doucement et régulièrement. Ses traits respiraient le calme, ses yeux s'étaient fermés, et Colin entendit sortir de ses narines un léger ronronnement de satisfaction. À ce moment, le religieux sautait d'un pied sur l'autre et soufflait dans un tube. La cérémonie était finie. Nicolas sortirent et attendirent derrière le camion. Alors le chouiche et le bedon apparurent, richement vêtus de couleurs claires. Ils se mirent à huer Colin et dansèrent comme des sauvages autour du camion. Colin se boucha les oreilles, mais il ne pouvait rien dire. Il avait signé pour l'enterrement des pauvres et il ne bougea même pas en recevant les poignées de cailloux. Ils marchèrent ensuite pendant très longtemps dans les rues jusqu'au cimetière. Les porteurs s'arrêtèrent enfin près d'un grand trou. Ils se mirent à balancer le cercueil de Chloé en chantant « À la salade !» et ils appuyèrent sur le déclic. Le couvercle s'ouvrit et quelque chose tomba dans le trou avec un grand craquement. Le bedon et le chouiche sortirent tout à coup de derrière un tumulus et se mirent à hurler comme des loups en jetant de la terre et des pierres dans la fosse. Colin était affaissé, à genoux, il avait la tête dans ses mains et Isis pleurait près de Nicolas. Alors le bedon et le chouiche et les deux porteurs se donnèrent la main. Ils firent une ronde autour du trou et puis soudain ils filèrent vers le sentier et disparurent en farandole. Le bedon soufflait dans un gros cromorne et les sons rauques vibraient dans l'air mort. La terre s'éboulait peu à peu et au bout de 2 ou 3 minutes, le corps de Chloé avait complètement disparu.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes inconnus dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent. Au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tous ceux que je connais, tous ceux que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent des brins d'algues sur le sable ondulé. L'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Tu voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains. Le reste, avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures. La mer à la montagne, la montagne à la mer. Les journaux en couleur. La fin de la douleur. Tous les enfants content. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille aux bancroches. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Alain Joubert à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci beaucoup, bonne soirée. Et à la semaine prochaine.
C'était une rediffusion de « Ça peut pas faire de mal » du 2 mars 2013. Nous n'avons pas été en mesure de diffuser le programme initialement prévu en raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France. Nous vous prions de nous en excuser. À suivre après le journal, l'humeur vagabonde avec Kathleen et Vin. Ce soir, on va parler de Toulouse-Lautrec.